France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Tout au long de cette campagne qu'on a démarrée nous très tôt, en septembre, on a senti un excellent accueil. Et je crois surtout que les instituts de sondage se sont plantés très largement pendant toute cette campagne. C'est probablement une campagne assez difficile pour eux à identifier, à voir les ressorts. Mais nous, on sentait qu'on était beaucoup plus haut que ça.
Yannick Jadot, lundi matin au micro de Nicolas Demorand sur notre antenne. Avant de parler des leçons que vous tirez l'un et l'autre des résultats des européennes, les sondages pointés du doigt depuis dimanche dernier, ils font partie des perdants des européennes. Ils n'auraient pas vu la participation en hausse, l'effondrement des Républicains. Et à écouter Yannick Jadot, évidemment, ils n'ont pas prévu non plus la percée des Verts. Gilles.
Toutes ces critiques sont parfaitement justifiées. Ils ont vu un certain nombre de choses. Ils ont vu, puisque c'était ça l'enjeu principal, ou c'est devenu l'enjeu principal du scrutin, l'ordre d'arrivée entre le Rassemblement National et La République En Marche. Ils avaient vu à peu près le score de La République En Marche, le score du Parti Socialiste. Certains d'entre eux, Ipsos notamment, avaient vu la dynamique d'Europe Écologie Libère, mais toutes ces critiques sont parfaitement justifiées.
Mais quand vous dites « ils », pourquoi ne dites-vous pas « nous » Puisque vous avez conduit avec la Fondation Jean Jaurès, le CVPOF et Ipsos Theria une grande enquête sur les intentions de vote sur un échantillon de 10 000 personnes.
Mais parce que ce sont les instituts de sondage qui sont les opérateurs. Là, en l'occurrence, le CVPOF et Le Monde et la Fondation Jean Jaurès ne sont que les clients.
Natacha.
Je pense que c'est un faux procès. Et c'est un faux problème.
Fait au sondeur ?
Oui, dans le sens où ce que ça nous montre, c'est que l'électorat est devenu extrêmement volatile et qu'une campagne, nous le voyons tous dans les médias, une campagne désormais se joue dans la dernière semaine. C'est d'ailleurs assez...
Mais normalement, les sondages devraient pouvoir le prendre en compte.
Mais sauf qu'ils ne peuvent pas, puisque justement, vous avez un nombre croissant de gens qui se déterminent le jour du vote. Sur une élection comme celle-ci, qui est une élection qui, pour la plupart des citoyens, semble un peu lointaine, où l'intérêt est moins immédiat que pour une élection présidentielle. La question de savoir quelles sont les motivations du vote est cruciale, c'est-à-dire que on s'aperçoit que beaucoup de gens ont, au dernier moment, décidé d'y aller pour faire barrage. Alors les uns pour faire barrage au Rassemblement National, les autres pour faire barrage à Emmanuel Macron. Et ils hésitaient, ils n'étaient pas motivés. Et à la fin, au dernier moment, ils se disent « mais tout de même, je ne peux pas laisser ces gens-là en tête ». Et puis, vous avez ceux qui, ne sachant toujours pas pour qui ils allaient voter, se disent « je vais envoyer un message ». Ce qui est classique dans des élections européennes, et c'est pour ça que les Verts font souvent un très bon score. D'autant que là, en effet, il y avait une dynamique sur les questions écologique. Mais ça, on pouvait le sentir, mais il est impossible, à mon avis, pour des sondeurs, de savoir exactement quelle est l'ampleur de cette dynamique. Et je trouve que plutôt que de s'intéresser au thermomètre, il vaudrait peut-être mieux s'intéresser à ce que ça nous raconte de l'état politique du pays.
Alors, on va y venir, l'état politique du pays, mais quand même encore un mot sur les sondages.
Ouais, je voudrais y revenir parce que, compte tenu de la place qu'occupent les sondages dans le débat public, c'est quand même utile de revenir, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a une première explication qui est assez simple, c'est que les élections européennes sont toujours des élections plus difficiles que les autres pour les instituts de sondage, parce que la participation est plus faible et donc chaque mouvement statistiquement est plus important, et parce que comme c'est un enjeu qui paraît secondaire pour les Français, la mobilité est plus forte. Après, la question c'est est-ce que...
La mobilité, c'est-à-dire les électeurs qui changent d'avis.
Les électeurs qui changent d'avis. Et donc la question c'est est-ce que le cœur du problème ce sont les instituts dont les techniques ont été défaillantes. Et ça, il va falloir qu'ils regardent et qu'ils regardent de près. Il est possible que pour une partie, l'explication se trouve là, notamment dans la surestimation des Républicains. Ou est-ce que, je le dis de manière un peu provocatrice, le cœur du problème, c'est le comportement électoral des Français? Le fait que, non seulement dans les deux
c'est
derniers...
C'est pas la faute des sondages, c'est la faute des Français.
Là, je dis ça...
C'est pas une question de faute, c'est un constat.
Je le dis autrement. Quand vous demandez aux Français à quel moment ils ont pris leur décision, que vous ajoutez ceux qui ont pris leur décision le samedi, et le dimanche, donc dans le dernier week-end, donc après que les instituts ont arrêté leurs estimations. Ça représente 23% des Français. Donc c'est absolument considérable.
Ah oui. Oui,
chacun en a fait l'expérience. Tous les auditeurs en ont fait l'expérience.
Un quart des électeurs.
Mais chacun a vu des amis, des proches qui disaient... On demandait le vendredi, le samedi, pour qui tu vas voter. Je ne sais pas encore si je vais voter, je ne sais pas encore pour qui. 23%. Ce qui est troublant, c'est que... Le mouvement se soit fait qu'il y a eu deux mouvements parallèles. C'est-à-dire, Comment on explique ce que vous évoquez, la surestimation très importante des Républicains, la sous-estimation importante d'Europe Écologie Les Verts? Pour une raison très simple, vous avez eu deux mouvements. Le premier mouvement, c'est que les électeurs de François Fillon de 2017, donc qui étaient des électeurs républicains, 30% d'entre eux ont fini par voter pour la liste d'Emmanuel Macron. Et 30% des électeurs d'Emmanuel Macron de 2017 ont voté pour des candidats de gauche et pour des candidats écologiques. Et donc c'est ce double mouvement qui explique la baisse des uns, l'augmentation des autres. Après, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a eu ce double mouvement.
C'est ça. Ce qui me semble intéressant, c'est de parler politique.
On y vient.
C'est-à-dire que
Natacha,
les Français ne sont pas irrationnels. Ils sont face à un paysage politique qui est problématique, qui est éminemment problématique. D'autant plus que a été surjoué, et là on peut le dire, ça a été surjoué par le gouvernement, par Emmanuel Macron, et ça a été relayé ensuite, a été surjoué cette idée d'un vote utile, c'est-à-dire la transformation de ce scrutin en quelque chose de purement national et qui allait ressembler à un second tour d'élection présidentielle.
Ça, on va en parler.
Et c'est ça qui a polarisé, qui a radicalisé en partie ce scrutin. Et je pense que c'est ça le plus intéressant à discuter. C'est la façon dont, petit à petit, ce paysage politique est en train d'évoluer vers quelque chose qui, pour ma part, me semble profondément dangereux.
Les sondages ne se trompent jamais parce qu'ils n'ont pas de vocation à prédire. C'est une phrase de Laurence Parisot, la patronne de l'IFOP, ancienne patronne du MEDEF. Juste d'un mot, Gilles, avant de passer au fond et de parler proprement politique. Moi aussi, je vais me mettre à défendre les sondeurs. En l'occurrence, ils ont prévu l'essentiel, à savoir les grands mouvements de fond, les deux de tête. Ça, ils l'avaient prévu et plutôt bien prévu.
Ils l'avaient plutôt bien prévu. Ils avaient tous, pour le coup, mis le Rassemblement National en tête. Après, il ne faut jamais oublier que les sondages, c'est une science molle, c'est pas une science dure. Je vous en donne juste une illustration, parce qu'on a parlé de la surestimation des Républicains, de la sous-estimation d'Europe Écologie Les Verts. La troisième erreur, elle a porté sur le niveau de participation. Il y a eu 5 ou 6 points d'écart entre la participation qui était prévue par tous les instituts et la participation réelle. Comment font techniquement les instituts pour prévoir la participation? Ils posent une question très simple aux Français, qu'ils sondent, sur une échelle de 0.
Regarde la météo.
Sur une échelle de 0 à 10. 0, vous êtes sûr de pas aller voter. 10, vous êtes sûr d'aller voter. Où est-ce que vous vous situez? Et par expérience, ils ne retiennent pour estimer la participation que les Français qui disent 10. Je suis certain d'aller voter. Eh bien, ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que des Français qui avaient répondu 9, un certain nombre d'entre eux sont allés voter. Eh bien oui, c'est une science humaine.
À suivre les leçons d'une élection.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Compte tenu du désaveu démocratique que le pouvoir subit ce soir, il appartiendra au président de la République d'en tirer les conséquences. Il n'a d'autre choix, selon moi, au minimum, que de dissoudre l'Assemblée nationale.
Quand on termine deuxième à une élection, on ne peut pas dire qu'on l'a gagnée.
Marine Le Pen et le Premier ministre Édouard Philippe, dimanche soir, on va rentrer dans le détail, mais en politique, on a le sentiment qu'il y a des gagnants, des perdants et des presque gagnant, je ne sais pas comment le formuler, Gilles.
Parce que comme toute élection, chacun voit midi à sa porte et on peut une même liste peut être à la fois gagnante et perdante. Vous prenez La République en marche et la déclaration du Premier ministre par rapport à l'objectif qu'ils s'étaient fixé et qu'ils avaient fixé à la campagne arrivée en tête, c'est un échec. Après, c'est dans le même temps aussi une victoire parce que La République En Marche est un pôle de stabilité. Il maintient à peu près le score d'Emmanuel Macron de 2017. Parce que, en relatif, tout le reste à côté s'est effondré. Et donc, un même score peut-être pour chacun. Une victoire et une défaite.
Alors que très peu de choses séparent le Rassemblement National et La République En Marche. Le Rassemblement National a 22 eurodéputés et la REM 21. Natacha ?
Non mais nous le disions la semaine dernière, c'est aberrant de transformer une élection européenne en une course au premier ou au deuxième.
Oui.
Simplement, si Emmanuel Macron a choisi de le faire, parce que personne ne lui demandait d'affirmer qu'il fallait qu'il arrive en tête, il l'a fait. Pourquoi ? Parce que son but politique, c'est de continuer cette déflagration sur le paysage politique français qui consiste à détruire tout ce qui peut exister d'autre que lui et le Front National. Le Rassemblement National, pardon, j'arrive pas à le faire.
Je pense que même chez eux, c'est un lapsus qu'ils font régulièrement.
Or, il a réussi. C'est-à-dire que tout le reste...
Il a réussi à détruire détruire les Républicains.
Les Insoumis se sont détruits tout seuls, mais tout de même, ça participe de cette dynamique. Les Républicains étaient dans une position extrêmement compliquée. Nous, là aussi, nous l'avions évoqué ces dernières semaines, la question de la ligne libérale conservatrice. C'est-à-dire les électeurs qui se sentent profondément libéraux et qui veulent avant tout garantir cela avec sans doute un vote sociologique, un vote de classe, ils sont tous allés vers Emmanuel Macron. Et ceux qui veulent avant tout préserver une dimension identitaire, une dimension de conservation, ont voulu sanctionner Emmanuel Macron et donc ont choisi la liste qui sanctionnait Emmanuel Macron. Donc de ce point de vue-là, vous avez des dynamiques qui sont de plus en plus radical au sens strict du terme, c'est-à-dire et qui se construisent contre. Et c'est cela qui me semble parfaitement dangereux, c'est que la motivation de beaucoup d'électeurs dans une élection européenne où pourtant tous les choix devraient être ouverts, c'était d'aller voter contre. Contre le Rassemblement National ou contre Emmanuel Macron. Quant aux électeurs de gauche qui avaient voté Macron en 2017 et qui ont décidé qu'ils ne pouvaient décidément pas voter pour lui, en effet, ils ont été attirés vers ce qui ressemble à un message et à un choix moral. C'est-à-dire que quand on ne sait pas pour qui voter, on ne vote plus en fonction d'une dimension politique, on choisit la dimension morale et dans ces cas-là, on va vers l'écologie qui est la question aujourd'hui qui se pose à tous.
Gilles Finkelstein.
Oui, pour prolonger ce que dit Natacha, je crois une semaine après le scrutin, si on essaie d'en tirer les principales leçons, je crois qu'il y a quatre mots. Un qui a été évoqué, c'est le mot de décomposition. Il y a eu une première lame en 2017 qui a fauché le Parti Socialiste. Il y a une deuxième lame, et je crois que c'est l'enseignement principal de ce scrutin en 2019, qui fauche les Républicains. Mais c'est une décomposition, et donc ce n'est pas une recomposition. Et donc le deuxième mot, pour moi, c'est la fragmentation. 50% des Français, malgré tout, n'ont pas voté. Parmi ceux qui ont voté, 45% ont voté pour les deux listes qui sont arrivées en tête. C'est peu ou prou ce que l'on a depuis 20 ans. Mais toutes les autres listes sont beaucoup plus basses. Et vous avez, c'est la première fois, 20% de Français qui ont voté pour des listes qui n'ont aucun élu. Première fois. Donc fragmentation extrêmement forte. Troisième mot, c'est la polarisation. Polarisation politique entre...
C'est ce que disait Natacha.
C'est ce que disait. Mais derrière, il y a une polarisation sociale. Quand on regarde le vote, on voit que dans les classes aisées et moyennes supérieures, La République En Marche fait 30%, et que dans les classes modestes et pauvres, le Rassemblement National fait 30%, et on a aussi une polarisation géographique. Et enfin, dernier mot, et c'est pas le moins important, il y a une mutation très importante de La République En Marche. Elle ne se voit pas, apparemment, puisqu'ils font le même score. En revanche, il y a deux changements très importants. Le premier est un changement d'équilibre politique, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la droitisation. Le deuxième changement qui se voit encore moins, c'est un changement démographique. Quand vous regardez le poids des plus de 65 ans dans l'électorat de La République En Marche, sur 100 électeurs d'Emmanuel Macron en 2017, vous en aviez 25 qui avaient plus de 65 ans. En 2019, il y en a 50. Et donc, c'est droitisation, vieillissement, c'est plus le même électorat.
Natacha.
Je dirais que, pour être très schématique, nous avons là l'élection de juin 68 après l'éruption de mai 68. C'est-à-dire que c'est un vote de peur. Exactement comme il y a eu une vague de droite après mai 68, aux législatives de juin. De même, là, nous avons un électorat qui est un électorat possédant, qui est un électorat qui a eu peur du chaos et qui est allé vers celui qui s'est présenté comme le seul rempart face au chaos. Et en effet, la dimension sociologique, je la trouve profondément inquiétante, c'est que nous avons une partition du pays et une lutte des classes violente qui est en train de s'installer, c'est-à-dire que le pays est coupé en deux. Et quand vous regardez la façon dont s'est passée la campagne, vous vous apercevez que pas une fois les têtes de liste, les représentants des différents courants n'ont cherché à élargir leur électorat et à parler à l'électorat de l'autre. À aucun moment, La République En Marche n'a essayé de reconquérir ou d'essayer de faire comprendre aux électeurs qui pouvaient être tentés par le Rassemblement National qu'ils avaient entendu leur véritable demande. Et de même, bon, le Rassemblement National, lui, se construit en contre, on le sait. Mais cette lutte des classes, qui est en effet une fracture qui recoupe la fracture géographique, elle est en train de détruire l'idée même de communauté nationale. Et je pense que à terme, c'est cela qui est inquiétant. Pourquoi ? Parce qu'avant, on avait un clivage gauche-droite qui était totalement factice, dans le sens où il permettait à des libéraux de droite et des libéraux de gauche d'alterner de façon totalement virtuelle une différence de politique. En fait, c'était la même politique, mais qui s'inscrivait dans ce faux clivage. Ce faux clivage arrivant en bout de course, il ne servait plus à préserver le système tel qu'il était, eh bien, on a suivi, c'est le vieux rêve d'Alain Juppé, de couper les deux bouts de l'omelette du corps politique, c'est-à-dire en gros on enlève les extrêmes pour lui, et on prend tous ceux qui sont d'accord pour perpétuer le système. Le macronisme c'est ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là on s'est transformé en quelque chose d'un paysage où il n'y a plus d'alternance possible. Puisque personne ne veut du Rassemblement National, pour l'instant. Pour l'instant, la colère de ceux qui veulent détruire le système n'est pas suffisamment forte. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où des gens se diront « mais enfin, il faut une alternance dans ce pays, où iront-ils ?» C'est ça qu'on est en train de voir. Quand il n'y a pas d'opposition, on joue un jeu profondément dangereux.
Gilles.
Oui, un point d'accord avec Natacha là-dessus. C'est-à-dire que le risque de la construction politique, c'est qu'on ait une démocratie sans alternance possible ou ayant pour seul alternant possible. Le Front National, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait maintenant 2 ans que c'est installé, mais ça s'installe plus profondément. Une divergence sur un point dans un scrutin très particulier qui est le scrutin européen, représentation proportionnelle à un tour. Il est logique que chacun parle à ceux qui sont le plus près de ses électeurs, le plus potentiellement ses électeurs, et cherchent à les mobiliser. Enfin, la référence à 1968, d'une certaine manière, c'est intéressant parce que Emmanuel Macron, qui voulait incarner le mouvement, incarne maintenant aussi, ou en tout cas l'ordre. L'autre référence, c'est peut-être aussi, pas seulement 68, mais 78. 78, c'est la construction, la première vraie construction de l'UDF, le parti de Valéry Giscard d'Estaing pour les plus jeunes. Et les analogies entre ce qu'est aujourd'hui La République En Marche et ce qu'était l'UDF de l'époque sont assez fortes. D'une certaine manière, Emmanuel Macron a reconstruit une grande UDF avec la différence qu'il n'y a plus à côté qu'un tout petit RPR et qu'il n'y a plus ni le Parti Socialiste ni le Parti Communiste.
Malgré tout ce que disait Natacha, est-ce que c'est pas finalement le constat que le vrai vainqueur, c'est Emmanuel Macron, a installé ce face-à-face avec Marine Le Pen. Il sait qu'il en sort gagnant. À vouloir structurer l'offre politique avec ces deux camps hermétiques l'un à l'autre, il sait que quoi qu'il arrive, à la prochaine présidentielle, s'il se retrouve face à Marine Le Pen, il l'emportera.
C'est un jeu profondément cynique, parce qu'en effet,
mais il est possible qu'il joue à ce jeu-là.
Mais on voit tous qu'il joue à ce jeu-là. L'enjeu posé comme enjeu qu'il fallait arriver avant le Front National, avant le Rassemblement National, qu'il fallait arriver en tête, c'était prendre le risque, en effet, d'être désavoué, ce qui est arrivé, mais c'est avant tout permettre d'induire systématiquement à chaque élection ce réflexe du barrage. Or, c'est ça qui est en train de se passer. Alors, évidemment, il a été aidé par la France insoumise qui a totalement perdu la boussole.
Comment l'expliquer d'ailleurs ?
Moi, je l'explique par le fait, cette fameuse confrontation entre une ligne qui voulait aller au peuple, qui est la ligne qui a été choisie en 2017, et la ligne plus tournée vers la gauche, voire vers une forme de gauchisme, qui petit à petit, sur le terrain, s'est développée chez les militants. C'est-à-dire que ce sont en fait les militants les plus aguerris qui ont gagné, ceux qui ont le socle sur le terrain et qui ont évacuer ceux qui étaient arrivés avec la vague de 2017.
Gilles.
Oui. Est-ce que Emmanuel Macron est le véritable vainqueur de ce scrutin? C'est possible, je l'évoquais. Il y a malgré tout une alerte pour lui et je pense qu'il a intérêt à y regarder. Je dirais même une double alerte. Le premier, c'est qu'il y a du temps à droite. Les Républicains se sont affaissés. L'hypothèque Wauquiez peut être levée et la droite a la possibilité de se reconstruire et de changer de leader, ça, c'est un sujet. Et je pense que le deuxième, c'est qu'il y a du mouvement à gauche. L'émergence d'Europe Écologie Les Verts, je crois, est une vraie interrogation pour Emmanuel Macron parce que c'est un terrain sur lequel il a peu de crédibilité et c'est aussi autour, je
même
dis pas nécessairement d'Europe Écologie Les Verts, mais
d'autres
autour
à gauche
de,
pour le moment.
Mais ça, on verra.
Et là,
Tout le problème sur les Verts, c'est la question de savoir comment ils se positionnent et s'ils vont continuer l'erreur qu'ils ont toujours faite, c'est-à-dire de s'associer in fine avec des libéraux sociaux qui finissent toujours par être plus libéraux que sociaux.
Avant de regarder le résultat des européennes en Europe. Un mot, Gilles, est-ce qu'on sait s'il y a eu un effet Vincent Lambert sur le vote républicain? Les commentaires s'affrontent et on ne sait pas qui a raison entre les deux.
Personne ne peut répondre avec certitude. Il est probable que dans la chute dans les derniers jours des Républicains, une chute très importante, il y ait eu le vote utile qu'évoquait Natacha, où les Républicains ont été siphonnés des deux côtés. J'ai dit 30% des électeurs de François Fillon qui ont voté pour La République En Marche, 15% qui ont voté pour Marine Le Pen. Il y a eu peut-être le retour de Laurent Wauquiez au premier plan. Ne jamais oublier que lorsque Laurent Wauquiez était testé, les Républicains étaient à 8%. Et puis, il y a eu les derniers jours de campagne de François-Xavier Bellamy autour de la fin de vie et autour de l'IVG.
Mais oui, il faut bien comprendre que la droite véritablement conservatrice, catholique, elle n'est pas majoritaire. C'est un corner idéologique et une grande part de l'électorat qui veut voter pour un parti libéral gentiment conservateur, n'a pas envie d'être associé à cette dimension franchement catholique. Et il suffisait de discuter avec des électeurs potentiels de François-Xavier Bellamy ces derniers jours pour comprendre qu'il y avait un problème.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
C'est le signe d'une Europe qui change, qui n'en peut plus d'être l'esclave des pouvoirs forts, de l'élite, de la finance et des multinationales. Notre travail va redoubler pour remettre au centre le droit du travail, le droit à la vie, le droit à la sécurité et aussi les valeurs. Une nouvelle Europe est née.
Matteo Salvini, le chef de la Ligue, qui a triomphé en Italie avec plus de 34% des voix. Il se félicitait du succès de son parti, mais aussi des autres partis populistes aux élections européennes, ceux de Marine Le Pen en France, de Nigel Farage en Grande-Bretagne. On a l'impression que c'est un élément qu'il faut aussi retenir du nouveau paysage européen, Gilles.
Bien sûr, quand on regarde, non plus au niveau national, mais au niveau européen, ce scrutin, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un déclin des deux grandes familles traditionnelles, le Parti Socialiste Européen et le Parti Populaire Européen, les sociodémocrates et les conservateurs, qui perdent l'un et l'autre aux alentours de 40 sièges. Mais c'est un élément difficile à intégrer pour nous, c'est que les nains ici restent malgré tout des géants là-bas. C'est-à-dire que ces deux grandes familles politiques restent les deux forces dominantes, et j'ai regardé de près comment on peut...
Les nains, c'est-à-dire vous parlez du Parti Socialiste et des Républicains?
Oui, qui sont des nains aujourd'hui en France sont encore des géants au niveau européen. Et vous n'avez pas aujourd'hui de majorité possible sans qu'il y ait à la fois les sociodémocrates et les conservateurs. Il faut qu'il y en ait d'autres, mais il faut nécessairement qu'il y ait ces deux-là. Bon, donc ça c'est le premier élément, déclin, mais il reste puissant. Et il y a eu une progression, pour le coup, des trois autres forces, des libéraux, des écologistes et de l'extrême droite, ou plutôt des extrêmes droites.
Natacha.
Bien sûr, et des extrêmes droites, en effet, parce que de toute façon, et c'est bien finalement ce qui préserve ce Parlement européen et ce qui préserve d'ailleurs l'ensemble des pays européens d'une puissance des partis dits populistes, c'est qu'ils ont des positions radicalement divergentes. Et qu'entre un Viktor Orban et un Matteo Salvini, il y a des différences majeure.
Et notamment sur l'immigration.
Voilà, et il serait plus intéressant d'ailleurs d'aller analyser la position des pays d'Europe de l'Est, d'Europe centrale sur la question du rapport au libéralisme économique, sur la question du rapport au libéralisme sociétal, pour comprendre que Viktor Orban représente quelque chose de très spécifique que nous avons beaucoup de mal à analyser en Europe de l'Ouest. Il faut discuter avec des gens qui se disent de gauche dans des pays de l'Est, dans des pays d'Europe centrale, pour comprendre que Viktor Orban ne les traumatise pas tant que ça, et qu'ils ont l'impression... Donc ces fractures-là, elles se voient dans les différents groupes qui se constituent au Parlement. Simplement, il va y avoir des questions d'alliance, c'est-à-dire ce qui est majeur, c'est de savoir avec qui s'allie le groupe des libéraux, avec qui s'allie les Verts. Et là aussi, la position des Verts à l'échelle européenne, par rapport à la position des Verts à l'échelle française, c'est quelque chose de très intéressant à suivre.
Gilles.
Oui, sur l'extrême droite ou les extrêmes droites, ça ne préserve pas la majorité au Parlement européen, au sens où même unis, l'ensemble de ces forces reste extrêmement minoritaire, comme on le disait avant l'élection. Ils ont des divergences sur l'immigration, ils ont des divergences sur les questions économiques, ils ont des divergences sur les questions géopolitiques, et notamment dans le rapport à la Russie, et donc l'alliance entre eux sera difficile. L'alliance entre les autres, c'est ce qui va être discuté, et une des raisons pour lesquelles, pour les Français, par rapport à ce qu'est devenu notre culture politique, ce qui est en train de se passer au niveau européen est déroutant. Il y a la raison que j'évoquais, les nains ici sont des géants là-bas. L'autre raison, c'est que rien ne va pouvoir être imposé, que tout va devoir être négocié.
Mais les socialistes, par exemple, les socialistes européens, les sociodémocrates européens, vont s'allier avec l'ALDE, les démocrates libéraux, le groupe qu'a rejoint Emmanuel Macron.
Il y avait un mot allemand qui avait émergé, ce qui est assez rare chez nous, qui était le Spitzenkandidat, le chef de file pour la présidence de la Commission. Il y a un nouveau mot qui est Coalition Verstrag.
Oula.
Ça veut dire quoi?
J'aurais dû faire allemand en première langue au lycée.
C'est un accord de coalition. Et donc, c'est pas une alliance, c'est trouver un accord programmatique pour faire fonctionner à la fois la Commission et pour faire fonctionner le Parlement européen. C'est ça qui va être discuté et c'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué qu'auparavant parce que le nombre d'équilibres qu'il faut respecter est absolument vertigineux. Il y a l'équilibre politique, les quatre forces qu'on évoquait, il y a l'équilibre géographique, Est, Ouest, Nord, Sud, il y a l'équilibre démographique entre les petits et les grands, l'équilibre entre les hommes et les femmes sur les quatre postes à attribuer, et évidemment l'équilibre entre le Parlement européen et le Conseil, on en a pour plusieurs mois.
D'une phrase, Natacha, avant d'ouvrir le débat.
La conclusion, c'est que tout ce que les candidats à l'élection européenne ont mis en avant comme grand projet pour transformer l'Europe ne se fera pas.